Extrait numéro 11, chapitre 16. Ponts et statues. Comme nous n'avons encore aucune nouvelle de ce que sont devenus Dandré et nos 57 colis, me voilà réduit à faire mes courses dans Saint-Pétersbourg avec un chapeau de cuir, une veste de velours blanc, un pantalon gris et ce fameux furoncle pour lequel le docteur a un instant voulu me couper la tête. Si seulement j'avais le Panama du comte. Un Panama de 500 francs me classerait tout de suite aux yeux des pétersbourgeois. Mais je ne l'ai pas. Tel que je suis, j'enjambe un drojki et je pars. Je connais par mes études antérieures Saint-Pétersbourg comme ma poche. Je sais dire Naprava à droite, Naleva à gauche, Pachol va, Stoï arrête et Damoï à la maison. Avec ce répertoire et l'intelligence si vantée des moujiks, je compte bien me tirer d'affaire à mon honneur. Au moment où je pars sur mon drojki, qui ressemble beaucoup au mulet de mon ami Courtet, le guide de Chamouni, lequel s'appelait, je parle du mulet, dur au trot et pour cause, je vois un charmant petit bateau à vapeur de la force d'une dizaine de chevaux qui se détache du débarcadère du comte et qui, glissant comme une hirondelle sur la Neva, prend le chemin du jardin d'été. C'est un avis pour ma prochaine excursion. Il est vrai qu'avec le bateau, je ne pourrais m'arrêter au pont de bois. Et c'est une si belle chose que Saint-Pétersbourg, du haut de ce pont, que je veux le revoir de là le plus souvent possible. Je m'arrête donc sur le pont et je regarde la citadelle. En ce moment, ce qu'elle offre de plus remarquable, c'est l'échafaudage qui habille à jour le clocher de Pierre et Paul que l'on restaure. Il y a déjà un an que cet échafaudage est dressé. Il restera dressé encore un an, deux ans, trois ans peut-être. C'est ce qu'on appelle en Russie un « frais », entre guillemets. Un « frais », c'est un abus. Il n'y a pas de mot en russe pour traduire notre expression populaire « arrêter les frais ». En Russie, les frais ne s'arrêtent jamais. Ils se renouvellent ou se continuent. Il y a à Tsarskoe-Selo un pont chinois sur lequel sont rangés une demi-douzaine de magots de taille naturelle. Ils sont placés sur des piédestaux. Un jour, Catherine a dit en passant sur le pont, « Il faudrait repeindre ces magots-là, ils s'écaillent. » On prit note du désir de l'impératrice. Le lendemain, on lâcha un peintre sur les magots. Tous les ans du vivant de l'impératrice, à la même date, on les repeignit. L'impératrice est morte depuis 63 ans. Tous les ans, à la même date, on les repeint. Les pauvres magots, couverts aujourd'hui de 80 couches de peintre, non seulement n'ont plus figure, mais n'ont plus forme humaine. On creuserait 2 pouces de couleur avant d'arriver au bois. C'est ce qu'on appelle un frais. J'irai à Tsarskoe-Selo rien que pour voir les pauvres diables enfermés dans leurs gaines de cobalt et de vermillon. Catherine II détestait la chandelle. Jusqu'à elle, on avait brûlé de la chandelle dans les palais impériaux. Elle défendit que, sous aucun prétexte, une chandelle entra même dans la loge du Suisse. 2 ans après, revoyant par hasard les comptes de l'année, elle trouve inscrit ce mot et ce chiffre « Chandelle 1300 roubles ». Cela faisait 6 000 francs de notre monnaie. Elle voulut savoir qui avait eu l'audace de contrevenir à son ordre et à quelle occasion on y avait contrevenu. Elle ordonna des recherches. On découvrit qu'en rentrant de la chasse, le grand-duc Paul avait demandé une chandelle pour enduire de suif une excoriation qu'il s'était faite à l'endroit qui touche la selle. On lui avait apporté une chandelle qui coûtait 2 sous. De ces 2 sous, on avait fait 1500 roubles. C'est ce qu'on appelle un frais. Même chose arriva au tsar Nicolas, qui, revoyant un jour avec le prince Volkonski les comptes de la maison impériale, trouva que l'on avait usé dans l'année pour 4 500 roubles de pommade pour les lèvres. La somme lui parut forte. On lui répondit que l'hiver avait été rude et que tous les jours, l'impératrice et tous les 2 jours, les dames et les demoiselles d'honneur usaient un pot de pommade pour entretenir la fraîcheur de leurs lèvres. Le tsar trouva que toutes les personnes indiquées avaient les lèvres fraîches, mais ne les avait pas au bout du compte fraîches pour 18 000 francs. Il s'informa aux dames et aux demoiselles d'honneur qui lui répondirent que Sa Majesté impériale ne se servant pas de pommade opiacée, elle ne se permettait point de s'en servir. Enfin, il s'informa au grand-duc Alexandre, aujourd'hui régnant, lequel, en réunissant ses souvenirs, se rappela que le jour de la bénédiction des eaux, étant rentré au palais d'hiver les lèvres gercées, il avait envoyé chercher un pot d'opia. On envoya chercher le semblable, il coûtait 3 francs. Ce n'était point encore dans la proportion de la chandelle qui ne coûtait que 2 sous. C'est ce qu'on appelle un frais. Que l'on ne s'étonne donc pas si l'échafaudage de Pierre et Paul ne reste debout qu'un an, 2 ans, 10 ans. La seule chose dont on doive s'étonner, c'est qu'on le démolisse un jour. Il y a cependant, pour le clocher de Pierre et Paul, un antécédent qui devrait pousser l'architecte à activer la besogne. En 1830, on s'aperçut qu'une des ailes de l'ange qui sert de couronnement et en même temps de girouette au clocher était brisée et menaçait de tomber à la première tempête. La réparation de cette aile céleste nécessitait l'application d'un échafaudage très élevé et par conséquent très coûteux, le clocher ayant 455 pieds anglais, 400 pieds de France environ. On estima cet échafaudage à 200 000 francs. C'était dur de dépenser une pareille somme pour aller mettre 4 clous à l'aile d'un ange, 50 000 francs par clou. On délibérait sur ce qu'il y avait à faire, et il était question de laisser l'aile endommagée devenir ce qu'elle pourrait. Il y avait même des économistes qui prétendaient qu'avec une seule aile, l'ange, devenu plus léger, ne tournerait que mieux et indiquerait le vent avec plus d'exactitude et de rapidité. Lorsqu'un paysan nommé Pierre Telouchkine, couvreur de profession, demanda à l'autorité la permission d'aller faire la réparation sur laquelle on délibérait, sans échafaudage et sans autre rétribution que le remboursement des frais faits par lui, s'en remettant l'opération accomplie, à la générosité de l'architecte pour récompenser le travail comme il l'entendrait. La proposition parut avantageuse et fut acceptée. L'entreprise fut accomplie à la plus grande gloire de Maître Telouchkine, et cela sans autre auxiliaire qu'une corde, un marteau et des clous, et encore le marteau et les clous, étant à l'intention de l'ange seul, n'étaient d'aucune aide dans l'ascension. Ce fut une grande joie pour les pétersbourgeois et un grand orgueil pour les gens du peuple lorsqu'ils virent Telouchkine arriver à son but et faisant le signe de la croix en remerciement à Dieu de la grâce suprême qui lui avait été faite de ne point se rompre le cou. L'aile de l'ange fut raccommodée et Telouchkine, 5 heures après l'avoir quitté, retrouva le pavé qui, si mouvant qu'il soit à Saint-Pétersbourg, lui présentait cependant une bien autre sécurité que le chemin de bronze doré qu'il venait de parcourir. Au bas l'attendait un peuple frénétique et un architecte furieux. Au milieu des congratulations que le peuple adressait à Telouchkine, l'architecte s'avança. « L'aile de l'ange n'est pas droite, lui dit-il. » Telouchkine regarda l'ange, puis se tournant vers l'architecte. « Je crois que votre excellence se trompe, dit-il. »« Et moi, je soutiens que l'aile penche, affirma celui-ci. »« Eh bien, dit Telouchkine, allez le redresser. » Et il s'en alla. Mais, comme la récompense regardait l'architecte, Telouchkine n'eut pas de récompense. Il rentra chez lui et resta quelques mois oublié. Monsieur Olénine, directeur de l'académie, entendit un jour raconter l'aventure et dire que le malheureux couvreur n'avait reçu aucune récompense. Il le fit venir et, lui ayant fait raconter toute l'histoire, il le présenta à l'empereur Nicolas, qui lui donna une médaille et 4 000 roubles argent. Propriétaire d'une pareille somme, le pauvre Telouchkine fut un homme perdu. Jusque-là, soit défaut de moyens, soit sobriété, il n'avait pas bu. À partir de ce jour, il ne cessa plus de s'enivrer. Par malheur, en Russie, l'ivresse est en quelque sorte encouragée par le gouvernement. La ferme du vin et des boissons diverses qui, sous 30 noms différents, abreuvent le peuple russe, est louée à des spéculateurs nommés Olkupokchik, de sorte que plus le peuple boit, plus la ferme rend. Telouchkine s'occupa donc activement à donner de la valeur à la ferme du vin. Il en résulta que pendant l'émeute du choléra de 1831, se trouvant dans un état d'ivresse complète, il jeta place du foin, théâtre le plus actif de cette émeute, un médecin par la fenêtre d'un 4e étage. Si bon médecin qu'il fût, le docteur se tua sur le coup. Telouchkine, reconnu pour un des principaux émeutiers, et convaincu d'avoir contribué à la chute du médecin, fut condamné à la Sibérie après avoir reçu le Knout. Il reçut le Knout et partit pour la Sibérie. Il va sans dire que l'on n'entendit jamais reparler de lui. Après avoir dépassé le pont de bois et en descendant le quai, de l'Orient à l'Occident, la première masse de verdure que l'on rencontre est le jardin d'été. Avant d'arriver au jardin d'été, on traverse un pont fort bossu qui est jeté sur la rivière de la Fontanka. C'est un des travaux de Pierre Ier. Un jour qu'il conduisait lui-même son droshky et qu'il amenait le grand maître de police dîner dans sa petite maison, dont nous parlerons tout à l'heure et qu'il ne faut pas confondre avec sa maison primitive, aujourd'hui conservée sous verre à côté de la forteresse, le pont de bois à l'aide duquel on traversait alors la Fontanka s'effondra sous le traîneau de l'empereur. L'empereur et le grand maître de police tombèrent tous deux dans la rivière. Pierre commença par se tirer d'affaire, aida le grand maître de police à en faire autant, puis le voyant sain et sauf sur ses pieds, il prit cette canne historique avec laquelle il avait l'habitude d'infliger lui-même ses corrections et rossa vigoureusement son compagnon qui, comme grand maître de police, était responsable de l'accident de la Fontanka. Puis la bastonnade administrée. « Ah, dit-il, allons dîner maintenant. C'est le grand maître de police que j'ai rossé et non mon convive. » La légende ne dit pas si le convive eut bon appétit. Le jardin d'été est le Luxembourg des pétersbourgeois. Il est taillé carrément, bordé d'un côté par la Fontanka, de l'autre par un fossé. Intérieur comme extérieur, tout y est tiré au cordeau. Ce serait une assez triste promenade si Catherine n'avait eu l'idée de faire apporter là, pour récréer les promeneurs, les statues et les bustes, qu'après le partage de la Pologne, elle prit au jardin public de Varsovie. Je n'ai rien vu de plus grotesque que toute cette collection de dieux, de déesses et de nymphes de marbre, avec leurs airs pompadours, leurs cheveux en racines droites et leurs bouches en cœur. Il y a, entre autres, une Luxure qui fait de l'œil, une Aurore qui sourit, et un Saturne qui mange ses enfants, lesquels valent que l'on fasse pour eux trois le voyage que l'Anglais avait fait pour la grille toute seule. Au nombre de ces marbres polonais internés dans un jardin russe, il y a un buste de Jean III, Sobieski, le sauveur de Vienne. Un jour, c'était en 1855, l'empereur Nicolas, traversant le jardin d'été avec son général aide-de-camp Conde de Rwewuski, polonais comme son nom l'indique, s'arrêta devant ce buste de Sobieski et, après l'avoir regardé un instant en silence, se retournant vers son aide-de-camp. « Sais-tu, lui demanda-t-il, quel est, après Sobieski, le plus grand niais de l'univers ?» L'aide-de-camp, qui se trouvait dans l'embarras du choix, regarda l'empereur, ne sachant que répondre. « Eh bien, c'est moi, dit Nicolas, moi qui, pour la seconde fois, ai sauvé l'Autriche. » En entrant et en tournant à gauche dans le jardin d'été, on trouve le petit palais de Pierre Ier, celui-là même où il allait dîner avec le grand maître de police, qu'il rossa si paternellement à propos du pont de la Fontanka. Un invalide en fait les honneurs, moyennant une rétribution d'une vingtaine de copecs. Pour 20 copecs, vous voyez la pendule sculptée par Pierre Ier, les armoires et les tables qui lui ont servi, plus le four où Catherine, qui n'avait pas oublié son séjour et ses occupations chez le docteur Gluck, faisait ses petits pâtés. Il y a une chose à laquelle il faut vous habituer. Une fois le pied mis sur la terre de Russie, c'est au mot, ou plutôt aux deux mots, « natchaï ». C'est le bakshish des Orientaux, le tringel des Allemands, le pourboire des Français. « Natchaï » veut dire, littéralement, « pour le thé ». Le thé est la boisson nationale des Russes. Il n'y a pas une maison en Russie, si pauvre qu'elle soit, qui n'ait son samovar, c'est-à-dire sa machine de cuivre à faire bouillir l'eau. Les Hollandais se grisent avec des concombres, les paysans russes avec de l'eau chaude. On n'a pas l'idée de ce que c'est que le thé d'un moujik et du nombre de chopines d'eau bouillante qu'il absorbe avec une paire de sucres, c'est-à-dire avec 2 morceaux de sucre gros comme 2 petites fèves, qu'il se garde bien de mettre dans son verre. En Russie, les hommes boivent le thé dans des verres et les femmes dans des tasses. D'où vient cette distinction, je n'en sais rien. Qu'il se garde bien de mettre dans son verre, mais qu'il introduit par parcelles dans sa bouche, parcelles qui fondent à mesure qu'il boit. C'est donc pour le thé que le Russe demande, et il le demande à tout propos, sans motif, sans raison, sans avoir rien fait pour l'obtenir, comme le Napolitain, pour la seule raison qu'on le lui donnera peut-être. Une tradition russe prétend que lorsque Dieu créa le Slave se retourna vers Dieu et lui tendant la main. « Excellence, lui dit-il, pour boire, s'il vous plaît. » À 20 pas de la maison de Pierre Ier est le monument funéraire du fabuliste Krylov. Le piédestal de la statue est orné de 4 bas-reliefs dont les sujets sont tirés des fables du poète. Tout autour de lui sont ses animaux. Singes, poules, tortues, lézards, lièvres, chiens, hérissons, cigognes, renards, auxquels il a prêté la parole. Lui-même est assis sur une espèce de rocher au milieu de cette troupe de quadrupèdes, de volatiles et de reptiles. La statue, qui, du reste, n'est pas bonne, a un autre défaut, c'est sa pose. Placée en avant des seules water closets qui liaient, je crois, dans tout Saint-Pétersbourg, elle a l'air de l'enseigne de cet utile établissement. Qu'on nous permette de prendre, pour sortir du jardin d'été, la même porte par laquelle nous sommes entrés, et de redescendre le quai jusqu'à la fameuse statue de Souvorov. Je ne sais point par qui elle est faite et ne veux pas m'en informer. Disons seulement 2 mots de celui qu'elle représente. Souvorov est presque aussi populaire en France qu'en Russie. Une chanson a consacré la mémoire de Monsieur de Malbrouck, une mode a immortalisé les victoires du vainqueur de McDonald's et de Joubert. On a porté pendant près d'1 an des bottes à la Souvorov. c'était le petit-fils de Jean Souvorov, prêtre au Kremlin. Ce prêtre était un de ceux qui conspiraient avec cette intrigante princesse Sophie dont nous avons raconté l'histoire. Il eut un fils qui s'engagea comme soldat, devint officier, par conséquent gentilhomme, et qui monta de grade en grade jusqu'à celui de général en chef. Le second Souvorov fut un fils, né en 1729, qui fut l'Achille de bronze que vous avez sous les yeux. Celui-là devint tout ce que l'on peut devenir en Russie quand on ne devient pas empereur. Il avait débuté dans la guerre de 7 ans, qui nous coûta le Canada et l'Inde. Il avait commandé comme brigadier l'assaut de Cracovie, vaincu l'armée polonaise à Stralovitz, battu les Turcs, soumis les Tatars Nogaï, reçu le titre de général en chef et gouverneur de Crimée. Il avait, avec le prince de Cobourg, gagné les batailles de Fokchani et de Martinesti sur le Rimnik, pris Ismailov, écrasé Kosciuszko à Marcijowice, et après avoir massacré les habitants de Praga, était entré à Varsovie. En 1799, il avait été envoyé par Paul Ier en Italie avec 30 000 Russes. Ils avaient, après un combat de 3 jours et de 3 nuits, forcé le passage de la Trébie que lui avait disputé Macdonald. Enfin, battu les Français et tué Joubert à Novi. Là, il avait appris que dans les gorges de Schwitz et de Glaris, Korsakov et Djelachich, ses lieutenants, avaient été battus par Lecourbe et par Molitor. Lui, l'invincible, qui avait foi dans sa fortune, leur écrivit alors « Je viens réparer vos fautes, tenez comme des murailles. Vous me répondez sur votre tête de chaque pas que vous ferez en arrière. » Il arriva en effet. Le 28 octobre 1799, on vit descendre de la cime escarpée de Rostock 25 000 Russes qui avaient passé là où des chasseurs de chamois ôtaient leurs souliers pour ne pas rouler dans les abîmes. Là, au-dessus de la demeure des aigles, l'attendait Masséna, cet autre vainqueur qui, de même que Souvorov, avait été nommé le Rybnik et l'Italique, devait être nommé, lui, duc de Rivoli, prince d'Essling. Il y eut un moment où les pâtres et le paysan crurent entendre gronder au-dessus d'eux un orage comme jamais eux ni leur père n'en avaient entendu. Il y eut un moment où le sommet des montagnes s'alluma, comme si tous ces titans de glace, rendus à la vie pour une nouvelle lutte contre Jupiter, lançaient des flammes. Il y eut un moment, enfin, où des cascades sanglantes descendirent dans la vallée et où roulèrent dans les abîmes des avalanches humaines. La mort fit une telle moisson sur ces hauteurs où la vie n'était jamais parvenue que les vautours, seuls et derniers maîtres du champ de bataille, dédaigneux par abondance, ne mangeaient plus que les yeux des cadavres. 8 jours après, l'homme qui avait écrit à Korsakov et à Djelachich, qui lui répondait sur leur tête de chaque pas qu'il ferait en arrière, fuyait lui-même, laissant dans les montagnes 8 000 hommes et 10 pièces de canon et traversait la Reuse sur un pont formé de 2 sapins que ses officiers avaient joints avec leurs écharpes. Il est vrai que, voyant ses soldats fuir, il s'était fait creuser une fosse en disant qu'il voulait être enterré là où les Russes avaient reculé, pour ne pas reculer avec eux. Mais la terreur avait été plus grande que la menace, et pâle de colère, Souvorov, comme le spectre de sa gloire, avait été obligé de se lever et de sortir de sa propre tombe pour suivre son armée qui fuyait. Paul Ier, qui, le 8 août, lui avait conféré le titre de prince d'Italie, qui, par un oukase, l'avait déclaré le plus grand homme qui eût jamais existé, ordonnant à ses sujets de le considérer comme tel, Paul Ier, à la nouvelle de son échec en Suisse, perdit non seulement toute la considération, mais tous les égards qu'il devait à ce vieillard qui comptait 40 ans de victoire. Au lieu d'aller au-devant de lui, au lieu de tenir l'étrier de ce cheval qui, pareil à celui d'Alexandre, de César et d'Attila, avait passé sur la cendre des villes, il se contenta de faire complimenter son général par le comte Koutaïssov. Or, qu'était-ce que le comte Koutaïssov, qu'il ne faut pas confondre avec Koutoussov? Un esclave circassien amené à Saint-Pétersbourg et devenu valet de chambre du grand-duc Paul, qui, de barbier comme Olivier le Dain, était devenu grand écuyer puis baron et enfin venait d'être nommé comte. Souvorov, déjà aigri par ses revers, le fut plus encore par cette réception. Mais comme c'était avant tout un homme d'esprit, il fit gracieux visage à l'envoyé de l'empereur, affectant seulement de ne pas le reconnaître. Et comme Koutaïssov paraissait s'étonner de ce manque de mémoire, « Excusez, monsieur, lui dit-il, un pauvre vieillard dont les facultés baissent. Comte Koutaïssov, répéta-t-il en s'interrogeant lui-même, j'ai beau chercher, je ne me rappelle pas l'origine de votre illustre famille. Vous avez sans doute obtenu le titre de comte pour avoir remporté quelques grandes victoires. Je n'ai jamais été militaire, mon prince, répondit l'ex-barbier. Oui, je comprends, vous avez fait votre chemin dans la diplomatie, vous avez été ambassadeur. Non plus, mon prince. Alors, ministre? Non plus. Quel poste important avez-vous donc occupé? J'ai eu l'honneur d'être valet de chambre de Sa Majesté. Oh, c'est fort honorable, monsieur le comte. Alors, sonnant son valet de chambre qui entra. Est-ce toi, Troschka? Lui dit-il. Oui, monseigneur, répondit celui-ci. Troschka, mon ami, tu me rendras la justice de dire que je te répète tous les jours que tu as tort de boire et de me voler. C'est vrai, monseigneur. Tu ne vas pas m'écouter. Eh bien, vois, monsieur. Et il montra du doigt Koutaïssov à son valet de chambre. Monsieur était valet de chambre comme toi, mais il n'a jamais été ni ivrogne ni voleur. Eh bien, il se trouve aujourd'hui grand écuyer de Sa Majesté, chevalier de tous les ordres de Russie et comte de l'Empire. Tâche de suivre son exemple, mon ami. Convenez, cher lecteur, que si Souvorov n'eût point mérité une statue pour ses victoires, il l'eût mérité pour ce mot.